L'Institut Montparnasse, think tank mutualiste dont la vocation est notamment de réfléchir à l'avenir du modèle mutualiste, réalise un podcast intitulé « Bâtissons des futurs solidaires », podcast qui invite au fil des épisodes des grands témoins de la mutualité, du monde académique, des penseurs, des politiques, français ou internationaux. Engagé dans une démarche de promotion de l'économie sociale et solidaire, en tant qu'économie défricheuse des nouvelles questions de société, innovante sur les problématiques sociales et environnementales, l'Institut Montparnasse donne aussi la parole à la société civile, aux acteurs des territoires, professionnels et citoyens engagés, afin de relayer les bonnes pratiques et les idées inspirantes. Pour les 70, 71, 72 et 73e épisodes du podcast Bâtissons des futurs solidaires, rendez-vous à l'Université de Haute-Alsace autour de la question de la réciprocité dans le soin, de l'alimentation à la santé. Rencontre avec ceux qui mènent des expériences, des apprentissages coopératifs, des observations et études au service du faire commun. Bonjour Stéphanie Hubert. Alors vous êtes médiatrice, proche aidante et documentariste, et c'est justement à l'issue de la diffusion de votre documentaire « Une case d'avance » sur le campus de Mulhouse qu'un collectif dit de santé en commun s'est constitué. Alors donc c'était en février 2023, c'était il y a un petit peu plus d'un an. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que contenait ou ce que racontait votre documentaire ?
Ouais, je vais revenir peut-être un peu sur, du coup, médiatrice, sur ma présentation.
Oui, allez-y, je vous en prie.
Médiatrice, oui, du coup, au travers des ateliers d'éducation à l'image que j'ai menés un petit peu à droite à gauche. Proche aidante, oui, là, actuellement, dans l'accompagnement de ma maman, qui est en fin de vie. Et d'autres personnes que j'ai régulièrement... Enfin, tout ça pour dire que c'est un parcours de vie, qu'il n'y a pas de... trop de hasard, quoi.
D'accord, que vous soyez sensibilisé sur ces questions-là. Alors, ce documentaire que vous avez réalisé, je le rappelle, à Toulouse, correspond peut-être à un moment de votre vie où vous y viviez. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé à ce... comment on l'appelait ?
Centre de soins communautaires. Donc, j'habitais pendant 18 ans à Toulouse. Alors, la rencontre, elle s'est faite un peu naturellement, au travers d'un reportage que j'ai fait. Et j'ai vraiment été très, très curieuse. J'ai trouvé ces personnes extraordinaires.
Elles ressemblaient à quoi, ces personnes, Stéphanie ? Qu'on comprenne où on est, c'est important.
Alors, elles ressemblent à des êtres humains.
Oui,
alors,
c'est
ça,
bien.
C'est quand même très particulier. Et en fait, c'est ça. C'est à un moment donné de se retrouver en face de vraies personnes. Et usagères, usagers, soignantes, soignants, mélangés.
Sur le terrain,
ouais.
En action.
Ouais. Et c'est hyper touchant dans un quartier de Toulouse, Arnaud-Bernard, pour ceux qui connaissent, qui est un quartier qui était populaire, qui a été gentrifié depuis, et voilà, mais qui à la base est très populaire. Et très touchant de voir ces gens. Donc le documentaire s'est fait autour de la lutte. En fait, j'ai pris des images, j'avais même pas de caméra. Donc j'ai pris des images avec des caméras différentes, ce qui au montage était après assez difficile, mais... du coup, c'était vraiment... C'est l'histoire de la lutte, quoi. De gens qui... Le centre devait être fermé parce que les subventions de l'Agence régionale de santé avaient été coupées. Et du coup, ils se battaient pour... ils essayaient de se faire entendre pour continuer à être subventionnés, continuer à exister.
Stéphanie, c'était en quelle année qu'on situe bien le propos ?
Alors, je crois que c'est en 2014, en fait. En 2014. C'est il y a 10 ans. Quoi.
Il y a 10 ans, ouais. Voilà. Donc, vous croisez le chemin de ces humains, comme vous dites, hein, qui œuvrent ou qui bénéficient ou qui font les deux de ces soins de santé délivrés dans ce lieu. Et ça vous touche. Et alors, donc, vous prenez la caméra et vous tournez et qu'est-ce qu'on peut encore en dire de ce documentaire ? Qui dure combien de temps d'ailleurs ? C'est important de donner le format.
26 minutes, c'est un documentaire, ce qu'on appelle un documentaire court. C'est une espèce de... C'est une série de portraits, en fait. Et à la réalisation, effectivement, c'est réfléchi que, effectivement, les usagères, les usagers, les soignants, les soignantes, on ne sait pas qui est qui. Et j'ai recueilli la parole des personnes qui parlaient effectivement de leur expérience dans ce soin communautaire. Et au travers de cette chorale de voix, on découvre petit à petit ce qu'est un centre de soins communautaires. Et j'avais vraiment l'impression que c'était vraiment le meilleur moyen de le raconter, parce qu'en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment de l'humanité. Moi, je pense que l'humain, il fait communauté. De toute manière.
J'allais vous demander une définition, chose très difficile compte tenu de la personnalité que vous avez, tout en nuance, Donc c'est quelque chose qui fait communauté. On peut le dire comme ça déjà dans un premier temps. Donc projection ici à l'université de Mulhouse, et là, un collectif se constitue à la suite de cette projection, des personnes se manifestent, sont intéressées en tout cas par le sujet.
Ouais, on a, avec Sarah, on avait décidé, parce que c'est Sarah qui a l'initiative.
Donc de... Sarah, on peut préciser effectivement, on peut tout dire.
Elle est doctorante.
Oui, son nom de famille.
Elle, Idrissi.
Donc Sarah El Idrissi est doctorante.
Ouais. Ouais.
Ici, donc en économie sociale et solidaire.
Ouais. Et du coup, c'est elle qui a organisé cette projection. Alors c'était assez amusant parce qu'on se connaissait, on se fréquentait et elle ne savait pas que... Enfin, elle ne savait pas que j'avais fait ce film. Et un jour, elle s'est intéressée à mon site Vimeo. Et d'un seul coup, elle voit le film. Elle me dit, mais c'est absolument incroyable. Tu ne m'en as jamais parlé. Et c'est super intéressant. Et du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. Assez naturellement, sans vraiment aucune prétention. Après, c'était super intéressant parce qu'on avait en visio des personnes de Toulouse, du coup de la case de santé de Toulouse, et on a pu faire un petit débat à la fin et c'était génial de les retrouver aussi en visio 10 ans après. Il y en a avec qui j'ai gardé contact, mais il y en a d'autres on s'était pas revus depuis très longtemps, donc c'était vraiment touchant. En fait, moi je pense qu'il faut fabriquer du récit pour faire commun et pour rendre visible des choses pour des choses qui passent totalement inaperçues. Et des centres de soins communautaires en France, il n'y en a pas des masses. Hein. Il y en a, je crois qu'il y en a 12 ou 16 actuellement qui sont en expérimentation. Donc c'est de rendre visible ça.
D'accord. Alors, donc un petit groupe, hein, on va le dire comme ça, très motivé, s'empare de la question. On va y revenir. Hein. Ça a été donc la naissance du collectif à la suite de cette projection. Pour ceux qui n'ont pas vu les images et qui vont les voir sans doute bientôt, parce que vous nous motivez beaucoup à aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de ce documentaire, je le rappelle, hein, qui s'intitule « Une case d'avance », quelles sont les caractéristiques du soin communautaire ? Qu'est-ce que vous pourriez donner comme mot ?
C'est de la santé globale. Après, on n'a rien inventé, hein, parce que la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est la santé n'est pas l'absence de maladie ou d'infirmité, mais un bien-être physique, social et mental. Non, on pourrait rajouter vraiment environnemental. Et voilà, donc on n'invente rien du tout. C'est vraiment la santé qui est prise dans sa globalité. Après, on peut choisir les mots globalité, holistique, mais c'est vraiment... C'est vraiment ça, et c'est tout simple. Et c'est réellement de la santé publique. Ça n'a rien d'extraordinaire. Et là, en l'occurrence, en plus, les centres de soins communautaires, c'est de la santé de premier recours. Donc, c'est de la santé primaire. C'est de la médecine générale. Voilà. Et il n'y a rien de spécial. Je veux dire, quelqu'un qui s'est cassé une jambe, il vient au centre, il est envoyé à l'hôpital pour se faire réparer la jambe. Il y a absolument de... C'est simplement l'organisation à l'intérieur et la manière de voir les choses qui est différente. Voilà, c'est tout.
Donc, c'est de la médecine générale, c'est aussi de la prévention. On y parle alimentation, par exemple.
Oui, après, on y parle vraiment de un peu tout. Moi, à Toulouse, j'ai travaillé sur des ateliers d'éducation à l'image avec des collectifs. Et les collectifs, c'est des collectifs d'usagères et d'usagers qui se montent. Donc, c'est les personnes elles-mêmes qui défendent ou qui parlent ou qui ont envie de parler de ce qu'elles traversent, de leur vie, de ce qu'elles sont. Et c'est vraiment, en fait, c'est vraiment ça, quoi.
Donc les personnes animent, elles bénéficient des soins au sens large, elles sont aussi intégrées et impliquées même dans le dispositif.
Totalement actrices et acteurs de leur santé.
Quels sont les autres éléments marquants et moteurs de ce fameux collectif qui s'est constitué, je le rappelle, en février 2023 à la suite de la projection de votre documentaire?
Le voyage apprenant, par exemple, des étudiants en master 2 ESS, où là, c'était vraiment... Enfin, moi, j'ai trouvé ça génial que des étudiantes, des jeunes personnes s'emparent du sujet.
Je précise, Stéphanie, qu'ils prennent la parole hein, dans un autre épisode. Ouais. Donc, on pourra tout à fait les écouter également, ce qu'a été cette expérience du voyage apprenant.
Et ce qui a été vraiment... Enfin, ce que moi, j'ai adoré, c'est qu'on leur a vraiment dit, mais partez de vous, quoi. Partez de ce que vous êtes. Pour vous, c'est quoi le soin dans votre vie, dans ce que vous êtes réellement? Et c'est vraiment de cet endroit-là qu'il faut partir. Pour comprendre le propos.
Autre élément peut-être important dans le déroulé de ce collectif, à un moment donné, la rencontre avec Fabien Maguin. Vous pouvez nous le présenter ?
C'est vraiment une personne adorable. C'est l'ancien administrateur de la case de santé de Toulouse. Et aujourd'hui, il est référent national des centres de ressources pour les centres de santé communautaires. Alors, c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience, qui a passé la case de santé. Je crois que c'est 2006, hein, c'est sa création, donc ils ont bientôt 20 ans. Et ce réseau de centres de santé communautaire, c'est un plaidoyer, en fait. Ce qu'ils essayent de faire, c'est vraiment un plaidoyer en faveur du soin communautaire. Et c'est de la ressource. De la ressource, de la coopération, de mettre en lien. Et c'est un travail qui est magnifique.
Donc la ressource existe, l'antériorité existe. Donc il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas être dupliqué, on peut le dire comme ça. Il y a aussi un lieu, c'est Strasbourg, que vous avez mentionné quand on a préparé cette rencontre, qui pour vous est aussi un lieu d'inspiration.
Au travers du réseau de centres de santé communautaire avec Fabien Maguin, effectivement, il nous a informé qu'il y avait un groupe sur Strasbourg qui se montait. D'accord. Aussi de santé communautaire.
Avec lequel vous êtes en lien déjà?
On a commencé.
Vous avez commencé.
C'est les premiers pas. D'accord. Vers effectivement un lien, quoi.
Alors, est-ce que le collectif, ce sera ma dernière question, mais elle est effectivement super importante, est-ce qu'il a pour objectif de créer un jour un centre dans Mulhouse? Et si oui, pourquoi et à quoi ça pourrait ressembler?
Le collectif actuellement, c'est vraiment un groupe de réflexion. C'est un groupe de soutien aussi qui veut rendre visible la santé communautaire et qui en discute et qui mobilise autour de ça. Après, sur Mulhouse, c'est vrai, l'état des lieux, c'est que c'est désert, il n'y a pas. Il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. En matière de soins communautaires, il n'y a rien. Mais il n'y a rien comme dans plein de villes en France. Il y a 12 ou 16 centres actuellement au niveau national. Donc ça fait très, très peu. Et je pense qu'il y a tout à faire, vraiment. Et qu'on peut rêver, effectivement, d'un centre de soins qui fonctionnerait effectivement de manière différente. Et là, il y a une expérimentation qui est menée avec le PEPS actuellement au niveau économique sur le business, enfin le modèle économique d'un centre de soins. Alors le PEPS, c'est paiement en équipe de professionnels de santé. Donc c'est une rémunération forfaitaire collective des professionnels de santé en remplacement de la facturation à l'acte. Pour l'instant, effectivement, les centres de soins s'appuient sur la médecine générale et la tarification à l'acte. Et là, effectivement, le PEP, ce serait une rémunération forfaitaire. Donc, les usagères et les usagers ont un forfait et vont bénéficier de soins. Et le centre est directement payé, ce qui permet effectivement d'engager des équipes beaucoup plus complètes.
Quand vous dites équipe complète, Stéphanie, vous pensez à qui? Parce que c'est important qu'on sache qui va vivre et travailler et bénéficier aussi des soins dans ce lieu.
Bah alors après, c'est selon la demande. Hein.
C'est, oui, selon c'est la important demande, de le dire.
L'implantation dans le quartier et selon les demandes qu'il y a. Il y a des endroits où on demande plus de médecins, il y a des endroits où il y a des orthophonistes, il y a des spécialités des fois qui sont différentes en suivant les implantations des centres.
Et parmi les personnes qui accueillent, parce que là vous parlez des professionnels de santé, ouais. Mais est-ce que par exemple il peut être nécessaire, vous me l'avez dit, qu'il y ait des traducteurs par exemple?
Ouais, après il y a forcément des travailleurs sociaux. Ça c'est vraiment le centre de soins communautaires, c'est des médecins, des soignants et des travailleurs sociaux qui travaillent main dans la main. Après il y a effectivement infirmières, infirmiers, il y a beaucoup de médiation, il y a médiateurs, il y a médiatrices, psychologues. Il peut y avoir des orthophonistes et après ce qu'il faut sur le terrain. Quoi.
Donc si on devait se résumer, c'est du sur-mesure avec l'humain qui est évidemment au centre, ouais. Quel qu'il soit, donc dans une certaine forme d'horizontalité
aussi.
Et oui, c'est possible. J'ai bien résumé la situation?
Oui, à Toulouse, il y a la nécessité, mais à Mulhouse aussi et dans toutes les villes de France. Enfin, et même dans tous les quartiers de France. Enfin, c'est évident. Que ce mode-là, il est indispensable. Quoi.
Merci infiniment, Stéphanie Hubert, pour toutes ces informations et toute l'humanité que vous apportez. Merci à vous.
Merci.
Merci à l'Université de Haute-Alsace. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre et imaginer le fonctionnement et les atouts des organisations relevant de l'ESS. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes.